partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Nous présentons aujourd'hui sur Canal Académie cette deuxième émission sur Malraux. Malraux et l'Inde, bien entendu, le rayonnement de Malraux en Inde. Et cette émission portera spécialement sur Malraux et ses rencontres et sa relation avec Nehru. Nehru aurait déclaré en accueillant Malraux à New Delhi en 1958 « Ainsi, vous voilà ministre, celui-ci commente », c'est-à-dire Malraux commente. La phrase ne signifiait pas du tout « vous faites partie du gouvernement français », un peu balsacienne et surtout hindoue, elle signifiait « voilà votre dernière incarnation ». Qu'est-ce qui pouvait ainsi rapprocher ces deux hommes qui expliquent la place très importante qu'occupe Nehru dans le miroir des limbes et le ton particulier avec lequel Malraux parle de lui? La première rencontre entre Nehru et Malraux avait eu lieu en janvier 1936. Telle est la date qu'indique Raja Rao, un spécialiste des relations entre la France et l'Inde, dans un de ses livres qu'il a écrit en anglais qui s'intitule « The Meaning of India ». Il était alors considéré comme le principal, Nehru était alors considéré comme le principal disciple de Gandhi. Malraux, lui, était antifasciste et la condition humaine lui avait valu, on s'en souvient, le prix Goncourt quelques années plus tôt. C'est Raja Rao qui organisa la rencontre à Paris entre les deux hommes. Il fut aidé par Jean Guéhenot, un essayiste proche de Romain Rolland. Raja Rao leur servit d'interprète. Dans La découverte de l'Inde, livre de Nehru, Nehru rapporte que Malraux lui posa une question à laquelle il ne s'attendait pas. Je cite « Qu'est-ce qui a permis à l'hindouisme d'expulser des Indes, sans grave conflit, il y a plus de 1000 ans, un bouddhisme bien organisé ?» Fin de la citation. Peu de gens en Europe ou en Amérique, remarque Nehru, lui auraient posé une telle question. On y est trop accaparé par les problèmes du moment. C'était une question selon mon cœur, dit Nehru, ou plutôt c'était le type de question que je me posais moi-même fréquemment. Plus tard, en 1958, nous ne sommes plus en 1936, les sentiments de Nehru envers la France étaient ambivalents. N'oublions pas qu'il était un des chefs de file à l'époque des pays non alignés, un des organisateurs de la conférence de Bandung qui avait rassemblé en avril 1955 29 pays d'Asie, d'Afrique et du Proche-Orient. À ce titre, il s'opposait à l'action menée depuis 4 ans par la France en Algérie. Il était en droit de s'interroger sur les intentions de De Gaulle. Mais Nehru, soucieux de ménager les susceptibilités occidentales, s'était abstenu de reconnaître officiellement le GPRA, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République algérienne. Il faut dire que le processus de rétrocession à l'Inde des anciens comptoirs français se faisait en douceur, contrairement à ce qui allait se passer un peu plus tard avec le Portugal, entre l'Inde et le Portugal. Circonspect avec la France, donc, Nehru l'était. Hostile, certainement pas. Si Malraux, après la guerre, s'était nettement démarqué de l'URSS, il n'en était pas moins demeuré hostile au capitalisme, prenant tant en économie qu'en politique extérieure une troisième voie, finalement assez proche de celle recherchée par Nehru. Cette troisième voie serait bien nécessaire aujourd'hui quand on voit les résultats causés par la révolution russe et par les crises du capitalisme qui n'en finissent pas. Malraux avait signé avec Martin Dugard, Mauriac et Sartre, trois prix Nobel distingués, un manifeste protestant contre la saisie de la question. C'était un livre d'Henri Alleg qui dénonçait l'usage de la torture en Algérie. Malraux arrive donc à Delhi le 27 novembre 1958, aussitôt après le premier entretien avec Nehru. Celui-ci donna ses instructions pour qu'ils fussent logés au palais présidentiel, dire Malraux et son épouse. Raja Rao avait été chargé à l'avance par le Premier ministre d'organiser dans le sud du pays le voyage décrit dans les Antimémoires, donc les Antimémoires, je rappelle, publiés en 1967, donc plus tard. De retour à Delhi, Malraux demanda à visiter le barrage de Bakra Nangal et surtout Chandigarh, deux lieux symboliques de la volonté de Nehru de faire entrer l'Inde dans le monde moderne. À Chandigarh, il fut accueilli par Le Corbusier, le célèbre architecte français auquel Nehru avait fait appel. Trois chapitres entiers des Antimémoires sont consacrés à l'Inde. Le premier de ces chapitres met en scène Malraux et Néroux à Delhi. Néroux expose les difficultés qu'il rencontre pour créer l'Inde moderne. De son côté, l'écrivain souligne tout ce que l'Inde peut apporter au monde grâce à l'autorité morale qu'elle a acquise avant et depuis son indépendance. Puis, les deux hommes parlent de leurs expériences en prison. Malraux évoque son arrestation en 1944 par les Allemands. Dans cette épreuve, il avait ressenti la solitude de celui à qui manque la foi. Je cite « J'étais, dit-il, amputé de l'éternel ». Retour à l'Inde, où Malraux voyage, il sera à Bénarès, Sarna, Madura, il aura enfin à Elephanta, dont le Mahesamurti, l'immense sculpture représentant les trois visages du dieu Siva, lui apparaît comme le symbole de l'Inde. Il cite plusieurs passages de la Bhagavad Gita qui mettent en lumière l'accord de l'homme hindou avec ce qui l'entoure et ce qui le dépasse. Dans le troisième et dernier chapitre sur l'Inde, Malraux et Néroux reprennent leur dialogue. Ils évoquent Gandhi, le Bouddha, brossent un parallèle entre l'Orient et l'Occident. Leur dernier entretien après le dîner à l'ambassade prolonge cette réflexion sur les civilisations. Comment accorder une civilisation de la machine à ce qui fut une civilisation de l'âme? Et sur le rôle que peuvent jouer la culture, l'art dans le monde moderne. Ce qui est étonnant, c'est qu'aussi bien en 1936 qu'en 1958, les deux hommes ne parlent pas de politique immédiate. La politique chez eux est d'entrée de jeu incluse dans une réflexion plus vaste sur l'histoire, les civilisations, l'éthique, le sens que l'homme donne à sa vie. Malraux confie en 1967, lors de la sortie des Antimémoires, à Michel Droit, fameux journaliste, qui lui faisait remarquer la place qui occupe Néroux. Je cite « C'est celui avec qui j'ai eu à parler le plus de choses qui ne soient pas politiques. Il y a donc une dimension supplémentaire. » Donc Néroux, pour Malraux, avait une dimension supplémentaire. C'était un grand homme. Et comme le confirme Indira Gandhi, les deux hommes s'entendaient à merveille pour parler de l'essentiel. Plutôt que de parler de l'Algérie en 1958, les deux hommes engagent le dialogue sur les grands axes de l'action entreprise en Inde, sur les principes qui guident cette action, sur son ancrage dans la tradition enfin, sur le message dont l'Inde peut être porteuse pour le reste du monde. Tout cela n'était possible que parce que les deux hommes étaient liés par de grandes affinités de personnalité et de pensée. Ils ont en effet de nombreux points communs, une grande culture à dominante historique et littéraire, même si Néroux avait étudié les sciences et l'économie à l'université, Il possédait un réel talent d'écrivain et connaissait parfaitement ses classiques. Ils avaient un goût commun pour l'action. Ils étaient agnostiques, nous y reviendrons tout à l'heure, opposés au capitalisme et hostiles aux méthodes de coercition communiste, souciés également de maintenir l'indépendance de leur pays et le souhait de les affermir. Pour Malraux, Néroux fait partie de ce qu'il appelle les hommes de l'histoire, c'est-à-dire que De Gaulle comme Néroux ont incarné à un certain moment les forces du non, de la dignité, de l'indépendance. Malraux a une vision quasi hégélienne de l'histoire. Pour lui, l'esprit d'une nation prend corps en ce qu'elle a de plus essentiel, ce qui en est le fondement et la noblesse dans de grands événements ou de grandes figures. Pour Malraux, Néroux est à ses yeux l'homme le plus apte à son époque pour guider l'Inde. Pour Malraux, Néroux, et Gandhi bien sûr, incarne l'Inde comme De Gaulle incarne la France. Il s'agit bien sûr avec les Antimémoires de recréation personnelle. Il utilise l'autobiographie de Néroux, publiée en France en 1952, « Ma vie et mes prisons », et le recueil d'entretiens qu'il accorda en décembre 1955 et janvier 1956 à Tibor Mende. Malraux utilise ce matériel. Il faut donc prendre le texte des Antimémoires comme il se présente, mosaïque de propos échangés entre les deux hommes de déclarations faites par Néroux 3 ans plus tôt devant Tibor Mende, et d'extraits de ses souvenirs, de cette construction se dégage ce que Yves Beigbeder appelle le Néroux de Malraux. Jai Jai Ram Ramaiya, jag ke paar lagaiya, Jai Jai Krishna Kanhaiya, jag mein raas Nehru se révèle, comme dans ses écrits, extrêmement cultivé, connaît parfaitement l'histoire et les traditions de son pays. Mais en même temps, il a assimilé toutes les valeurs de l'Occident. C'est un homme parfaitement bilingue, à cheval sur deux civilisations, aussi capable de goûter la musique classique indienne que d'imposer à son pays l'œuvre novatrice de Le Corbusier. Il est à l'aise aussi bien en évoquant la geste de Gandhi, la légende du Bouddha ou les héros de Mahabharata que lorsque les questions portent sur la construction de l'État ou les réformes à accomplir dans les domaines économiques et sociaux. La nécessité de construire un État à la fois garant de l'indépendance nationale et cadre indispensable au progrès social fait partie des sujets abordés parce que c'est une de leurs préoccupations communes. L'importance du fait national s'était pleinement imposée à Malraux durant la guerre. C'est d'ailleurs ce qui avait provoqué sa rupture avec les communistes, trop inféodés selon lui à l'URSS. De son côté, Nehru s'était longuement interrogé sur l'identité de son pays dans la découverte de l'Inde, un de ses livres. Son témoignage n'est pas d'ordre religieux, c'est un témoignage de fidélité à ses racines. Chez l'un comme chez l'autre, néanmoins, ce patriotisme n'est en aucune façon synonyme de nationalisme, encore moins de chauvinisme. Ils sont tous deux conscients de la nécessité d'œuvrer dans le sens d'une plus grande entente entre les nations et convaincus que leur pays a un rôle de premier plan à tenir au sein de la communauté internationale. Dans un entretien avec Frédéric G. Grover, Malraux explique que Nehru, je cite, était très sensible à ce qu'on pensait de l'Inde. Ma façon d'y voir une des grandes données de l'âme humaine l'intéressait beaucoup. Malraux était impressionné par la spécificité de l'Inde, qui est d'avoir conquis son indépendance par la non-violence, c'est-à-dire au nom de valeurs morales et religieuses. Malraux constate qu'au fil du temps, Nehru s'était assagi. Était-ce par lassitude ou par réalisme? Au fil du temps, il apparaît moins impatient de faire bouger les choses. Mais Nehru continuait à être préoccupé d'accélérer le progrès social pour que les masses indiennes ne soient pas attirées par le modèle chinois. L'agnosticisme de Malraux, revenons sur ce point, n'est cependant pas de la même nature que celui de Nehru. Pour ce dernier, le fait religieux est une donnée sociale dont il faut tenir compte, mais pour laquelle il n'éprouve aucune tendresse. Pour Malraux, au contraire, l'Inde est avant tout une réalité religieuse, spirituelle, métaphysique. À Michel Droit, qui lui fait remarquer combien il le sent accroché par l'Inde, de Nehru, Malraux répond, je cite, « Il y avait quelque chose de très impressionnant, c'est qu'en réalité, l'Inde n'a de réalité politique que dans la mesure où elle est une réalité religieuse. On ne peut pas dire que la religion seule ait fait l'Inde, mais c'est sur des données foncièrement religieuses que repose tout ce qui dans l'Inde agit. » C'est Roger Stéphane qui note qu'il avait deviné la sensibilité spiritualiste de Malraux, difficilement conciliable avec son agnosticisme marqué, et Malraux de lui répondre « En effet, d'une part, je suis agnostique et d'autre part, je suis très sensible à la transcendance. Je sens bien pourquoi, lorsque je suis entré en contact avec l'Inde, ce contact a été si profond, il a été immédiatement une mise en présence de la transcendance. L'occidental Malraux est pénétré par l'Orient hindou et l'oriental Nehru est attiré par la modernité occidentale. Besoin d'équilibre entre les deux hommes, entre les deux mondes, c'est assez fascinant. » Raja Rao, d'ailleurs, confie que Nehru, tout imprégné soit-il de culture indienne, ne peut pas toujours suivre Malraux dans ses références constantes aux Upanishads, à la Bhagavad Gita et à Shankara. Au moment où il prend congé de Nehru, Malraux l'exhorte ainsi, je cite, « Laissez-moi vous dire, pour terminer ce que j'ai à dire, que le grand Shankaracharya guide l'Inde. » Fin de la citation. C'était sans doute pas ce que le leader progressiste s'attendait à entendre, mais l'entente entre les deux hommes est très forte. Malraux est fasciné par l'Inde traditionnelle et pour Malraux, Nehru demeure l'héritier du petit bonhomme en pagne, c'est-à-dire Gandhi, ce qui n'empêche pas Nehru d'apprécier énormément Malraux. Après la mort de Nehru, qui eut lieu en 1964, Malraux affirma, je cite, « Sans doute, jamais l'Inde n'aura été plus grande que lorsqu'il était là pour en témoigner. » Fin de la citation. Dans la bouche de Malraux, ce n'était assurément pas là des propos convenus, mais l'expérience d'une authentique admiration mêlée de tendresse. Entre la France et l'Inde, Malraux a tracé des chemins royaux. À nous de poursuivre des relations qui peuvent à présent s'appuyer sur un passé commun, des idéaux forts où la justice, la paix, le progrès social sont inscrits dans notre patrimoine commun. Une francophilie, francophonie existe dans cette Inde millénaire. Elle est grande et pourtant peu connue. À nous de l'éclairer. C'est ce que fait Canal Académie aujourd'hui dans cette deuxième émission sur Malraux et l'Inde. J'ajouterai pour cette deuxième émission une courte bibliographie. Yves Beigbeder, André Malraux et l'Inde, il s'agit d'une thèse soutenue en Sorbonne en 1983. André Malraux, œuvre complète chez Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. André Malraux et la tentation de l'Inde chez Gallimard, et c'est une publication conjointe Gallimard et l'ambassade de France en Inde en 2004. Frédéric Grover, six entretiens avec André Malraux, Gallimard, ID 1978. Nehru, Jawaharlal Nehru, Ma vie et mes prisons de Noël 1952. Et du même Nehru, La découverte de l'Inde, Philippe Piquier en 2002. Et j'ajouterai à cette courte liste Raouj Raja, un titre en anglais, The Meaning of India, Delhi, Vision Books, 1996. Je vous remercie et à bientôt.